présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Bien entendu, le monde entier a appris que le pape a eu une crise. Certains ont dit que c'était les Américains qui voulaient l'empoisonner pour y faire élire un autre, le fameux Capone. Arrivé à Paris, Gallien dit à Danfort que les choses se sont bien passées. Mais pas comme je le pensais. Le pape est bizarre. Il m'a fait la cour. Galien se dit « tant mieux, comme cela sera toujours de notre côté, parce qu'il aime malgré lui l'élu. » C'est sûrement dû au cerveau de Guillaume. Il doit y rester quelque chose de son ancien propriétaire. L'enfant lui dit « tant mieux, s'il a l'amitié pour vous. » Galien lui dit « malheureusement, je crois que c'est plus que de l'amitié pour moi. » L'enfant lui dit « vous allez faire des jaloux. Vous vous rendez compte, le pape ?» Galien lui dit « mais il y a sacrilège et l'on peut nous en vouloir et puis dire que c'est pour cela que le pape est de notre côté, qu'on lui a mis dans les bras un jeune homme et que en plus c'est le président du groupe. Quelle publicité !» L'enfant lui dit « personne n'osera rien dire. La vie du pape, c'est sacré. » Galien, malgré lui, pense constamment à Guillaume. Il ne sait pas pourquoi il y pense tant. Pendant ce temps, le pape, lui, ne va pas très bien. Il a souvent des maux de tête terribles, envie de vomir, n'a pas beaucoup d'appétit, a des brûlures d'estomac, un caractère irritable. Il a des migraines. Des migraines et des espèces d'étouffements. Le médecin, un grand homme sec, à cheveux blancs et lunettes métal doré, l'ausculte et lui dit « je ne vois rien d'anormal. Vous semblez en manque de quelque chose. Avez-vous pris des médicaments régulièrement il y a quelque temps ?» Donetti lui dit « j'ai eu un ennui cardiaque, mais je ne crois pas que ce soit dû à ça. » Le médecin lui dit « on ne sait jamais. Je vais vous prescrire des calmants et après nous verrons. » Le médecin va voir le secrétaire du pape.
Entrez. Venez vous asseoir.
Je suis inquiet pour sa santé. Je l'ai examiné et j'ai l'impression qu'il est en manque de drogue. Il est comme un drogué. Je ne sais que faire pour le soigner. Il lui faudrait c'est de la morphine ou de la cocaïne. Mais je ne peux pas lui en fournir. Le secrétaire lui dit « vous ne cherchez pas à le soigner au lieu de lui donner ses poisons ?» Le médecin lui dit « un pape... morphimane, ça peut être utile. Vous pouvez lui demander ce que l'on veut. Il est entre nos mains, à notre merci. À nous deux, bien entendu, vous lui donnez la drogue que je vous donnerai, et en échange, nous pourrons lui demander ce que nous voudrons. Notre fortune sera faite. » Le secrétaire lui dit, « un pape qui se drogue, cela va se voir. » Nous leur dirons, si on nous pose des questions, qu'il se soigne, qu'il a de violentes douleurs à la tête dues à son accident. D'ailleurs, je me demande ce que les Français ont dû lui faire dans la tête. Il a une sacrée cicatrice. Et avec quoi ils l'ont soigné? Ils ont dû le droguer à fond. C'est un pape en mauvais état qu'ils nous ont donné là. Alors, nous lui procurons de la drogue? Un jour qu'il aura mal, vous lui direz que vous savez ce qu'il lui faut. Et c'est ce qu'ils font. pape a très mal, très très mal à la tête. Il respire mal, broie du noir. Et dans sa chambre, sonne son secrétaire pour qu'il lui donne de l'aspirine.
Entrez.
Le secrétaire va vers lui.
Vous n'êtes pas bien, votre seigneurie? J'ai très mal à la tête. Donnez-moi de l'aspirine.
Le secrétaire lui dit,
c'est mieux, vous savez. Quelque chose de très efficace et qui vous fera grand bien. Je vais vous chercher ça.
Et il sort de la chambre. Revient avec une sacoche en cuir qui pose sur la table de nuit. L'ouvre il y a une seringue, des flacons et du coton.
Le pape lui demande, qu'est-ce que c'est?
Pendant qu'il prépare la piqûre, le secrétaire lui dit, cela va vous faire du bien, vous allez voir ça, c'est de la morphine. Le pape est surpris.
Vous croyez que ça va me faire du bien?
Oui, bien sûr. Il se penche vers le pape, il soulève sa manche et le pique. Le pape sent une douleur qui suit la veine. Puis, c'est une brûlure, la douleur. Puis, petit à petit, un apaisement.
Oui,
cela va mieux.
Oui, merci.
Des perles de sueur coulent sur le visage du pape. Une sueur froide, puis chaud. Je vais vous laisser maintenant. Mais il faut me promettre de ne jamais dire que je vous donne de la morphine. Hein? Je vous le promets.
Et le secrétaire le quitte.
Désormais, chaque soir, le pape demande sa morphine. La journée se sent mieux et il peut recevoir en audience. Mais la nuit, le mal lui revient. Il en manque. Le secrétaire lui en donne. Et un soir, il lui dit
« C'est la dernière fois que je vous pique. Je n'en ai plus. » Le pape lui dit « Achetez-en. Ça coûte cher, je paierai. Dis-moi de la somme. »
Il lui donne la somme. Désormais, le pape se pique et paye le secrétaire. Du coup, ça lui coûte très cher car le secrétaire et le médecin se sucrent. Le temps passe. Le pape va mieux à cause de la drogue. Comme cela coûte cher, il prend des réserves du Vatican, des œuvres d'art, tableaux, livres, statues, et les fait vendre. Ceci inquiète le responsable des réserves, qui fait son enquête et s'aperçoit que le pape fait des chèques au secrétaire ou lui donne des œuvres d'art. Et que le secrétaire a des rapports réguliers avec le médecin. Il voit que le médecin amène des petites ampoules.
Un jour, Il réussit à se faufiler dans le bureau du secrétaire qui est absent. Et a trouvé les ampoules dans le tiroir de son bureau. Il comprend ce qui s'est passé.
Le responsable des réserves est un espion de temps fort. Il va tout lui dire. Il part à Paris. Tous les deux dans le bureau de Danfort. Après avoir écouté, Danfort lui dit
« Si, c'est très grave. Le pape est alors merci, à la merci de la mafia. Je vous remercie de m'avoir informé. Continuez à le surveiller. Moi, je vais réfléchir pour voir ce que je peux faire. »
« Je peux partir ?»«
Oui. Merci pour tout. Retournez tout de suite au Vatican.
Bien, monsieur. »
Allô, bonjour, je suis Danfort, j'aimerais parler à Riquin. Merci. Allô, Riquin, j'aimerais c'est que vous puissiez venir de toute urgence dans mon bureau. C'est très très important. Bon, très bien, je vous attends.
Entre Riquin.
Venez vous asseoir, Riquin.
Et Danfort lui explique la chose. Après avoir réfléchi, Riquin lui dit
« On peut faire une chose, c'est introduire dans le corps du pape une bactérie qui produit de la morphine à l'intérieur de son corps, mais une morphine non nocive. »
Danfort lui demande
« Et comment pouvez-vous faire pour lui mettre cette bactérie ?»
Riquin lui dit « C'est très simple. » Une bactérie peut se mettre par injection. On lui fait une piqûre.
Danfort lui demande, sous quel prétexte? Prélèvement de sang, pour voir si tout va bien après son opération.
Et en même temps, on lui injecte une piqûre pour lui dire que c'est pour rendre le sang plus liquide, etc.
Si vous permettez, je vais lui écrire pour lui dire que l'on viendra lui prendre un peu de sang pour voir si tout va bien.
Danfort lui dit, je vous remercie. Je vous laisse faire.
Et une semaine plus tard, le pape reçoit une lettre pour examen sanguin pour vérifier si tout va bien. Le secrétaire lui dit « Refusez, ils vont se faire savoir que vous prenez de la morphine. »
« Mais si je refuse, ils vont croire que je leur cache quelque chose. »
Le secrétaire lui dit « Dites-leur que votre médecin fera la prise de sang. » Quelqu'un qui lit la lettre du pape est inquiet. Il se dit « Le pape est entre les mains des mafiosos. » Il lui répond que c'est une prise de sang spéciale que ne peut être faite que par le laboratoire Juntou, qui n'a rien à craindre. C'est juste pour voir si tout va bien. Une prise, pas d'analyse profonde, rien. C'est surtout la coagulation que l'on vient de voir. Pour cela, la semaine suivante, car c'est très urgent. Il envoie la lettre de telle sorte que le pape n'ait pas le temps de répondre. Le pape est obligé de le recevoir. Le reçoit avec auprès de lui son secrétaire et son médecin. Le médecin de Riquin arrive au Vatican. Le pape le reçoit dans sa chambre.
Là, à ses côtés, le secrétaire et le médecin. Sa Seigneurie veut bien s'allonger. Le pape s'allonge pour la prise de sang.
Riquin sort ses affaires pour lui faire la prise de sang et la piqûre. Il lève la manche du pape et lui fait la piqûre. Le médecin lui demande: c'est pourquoi cette piqûre? Juste un nouveau produit pour liquéfier le sang un petit moment. Le médecin fait la grimace, puis fait la prise de sang au pape. Une fois que c'est fait, Riquin dit:
ne faites pas de soucis, c'est simplement pour regarder les globules blanches.
Il dit au médecin:
vous n'avez pas confiance, venez avec moi. Le médecin lui dit: non, faites ce que vous avez à faire.
Et Riquin s'apprête à partir.
Il dit au pape: vous allez vous sentir un peu fatigué, une demi-journée, mais le liquide va s'en aller par les urines. Il vous suffit de bien boire et de manger de la bonne viande. Voilà, merci votre seigneurie. Je vous enverrai les résultats.
Et il sort de la pièce.
Le pape se sent un peu là. Le docteur lui dit:
il faudra faire une prise de sang pour savoir ce qu'il a mis. »
Le pape lui dit, « Ça ne vaut pas la peine. Vous avez vu, ce n'était rien du tout. »
Ricain fait à Paris l'analyse et l'envoie au pape pour lui dire que tout va bien. Puis, une semaine plus tard, Ricain est dans le bureau de Danfort. Il lui dit
« Il faut attendre un mois pour que la bactérie fasse son effet.
Après, il n'aura plus besoin de morphine. La bactérie va en fabriquer dans son corps. »
Fort lui dit « Et le pape n'aura plus besoin de ses fournisseurs. »
Le pape se sent bien. Il ne sent plus le besoin de morphine. Le secrétaire et le médecin sont inquiets. Le secrétaire en parle au médecin qui lui dit « Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'en fournit. Il va falloir surveiller. »
Puis le médecin quitte le secrétaire.
Il se demande si ce n'est pas le secrétaire qui cherche à se passer de lui. En sortant du Vatican, il se dit que si je cherche à me filouter, il aura affaire à moi. Le médecin habite une belle villa en dehors de Rome, villa du 18e magnifique avec parc, statues antiques d'époque et tout. Une fois chez lui, dans son salon, immense pièce, avec véranda et tout, il décide, après avoir réfléchi, de téléphoner au secrétaire.
Allô? J'aimerais parler au secrétaire de sa sainteté. Oui, je suis son médecin. Merci. Allô, c'est moi. Chez moi, c'est que vous puissiez venir ce soir. C'est très urgent. J'ai compris quelques petites choses. Venez à 23h, comme ça nous serons tranquilles. Bon, très bien. Alors à ce soir. Secrétaire, à 23 heures, va chez le médecin. Il a arrêté sa voiture devant le portail.
Sonne au portail. Oui,
c'est moi. Entrez.
Le portail s'ouvre. Il entre.
Il suit une route qui le mène devant l'entrée de la maison.
Sonne à la porte.
La porte s'ouvre, c'est le médecin. Entrez, il entre.
Allons au salon, ils seront mieux pour parler.
Et il le conduit au salon.
Il entre. Asseyez-vous. Secrétaire s'assoit dans un fauteuil. Vous voulez boire quelque chose?
Non, merci.
Si, pour faire plaisir. Nous avons été en affaires durant tout ce temps. Alors, l'on peut bien trinquer. Secrétaire lui dit, ben alors un petit bourbon. Le médecin va chercher la boisson au bar. Il prend une bouteille, deux verres. Remplit les deux verres. Met des glaçons. Et va porter le verre au secrétaire. Tenez. Merci.
Le secrétaire en boit une gorgée. Le médecin lui dit, voilà, c'est bien.
Le secrétaire lui demande, qu'avez-vous à me dire? Le médecin lui dit, vous saurez bientôt. Ça sera très rapide. Buvez encore un peu. C'est bon, ça, hein? Ça met en forme.
Le secrétaire boit. Alors, vous allez me dire?
Le médecin lui dit, il manque une personne. Elle va venir. Après, vous comprendrez. C'est une surprise. Quelle est cette personne? Une personne très influente. Et qui va bien arranger les choses. Je ne vois pas qui ça peut être. Vous saurez. Quand vous la verrez, vous comprendrez. Ça vient. Tout à coup, le secrétaire se sent bizarre. Il a des tremblements. Je me sens pas bien. Ce n'est rien, c'est normal. J'ai froid.
Je sens ce que je me sens partir. Il a le souffle court. Sa vie se brouille. Il est de plus en plus isolé. Qu'est-ce que j'ai ? Aidez-moi. Tout tourne. Il est tout blanc. Tourne de l'œil. Noir. Son verre s'est brisé à terre. Le corps s'est arrêté d'un coup et resté avachi sur le fauteuil, visage grimaçant. Le médecin dit, « Tu vois, celle que l'on attendait, c'était la mort. Que veux-tu, j'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Tu voulais vendre la drogue sans intermédiaire. Eh bien, il n'y en a plus, je suis le seul maintenant. » Le médecin se baisse. Prend le corps par les épaules, sur ses épaules. Et sort du salon. Il longe le couloir. Il y a des escaliers qui mènent à la corde. Là, dans la corde, il y a une baignoire. Avec dedans de l'acide sulfurique. Il pose le corps à terre. Met une blouse. Des gants en caoutchouc. Et prend le corps pour le déposer dans la baignoire. Et il l'enfonce bien. Il met pour qu'elle reste bien au fond. Sur le corps, une grosse pierre de menuisier. Voilà, c'est fait. J'ai fait la même chose avec ma femme et je peux t'assurer qu'il ne restera rien de toi. Puis, il enlève ses gants. Sa blouse. Et sort de la corde. Il se m'avait pensé, merde, et la voiture, pourvu qu'il ait laissé la clé sur la voiture. Vite, il sort de chez lui. et du parc. La voiture est là, à côté de l'entrée. Il va vers la porte, la portière. Elle est formée à clé. Merde, la clé a dû rester dans sa poche. J'étais con, j'aurais dû lui vider les poches. Et puis, il avait peut-être un peu d'argent. Que faire? Il se met derrière et essaye de la pousser. Par chance, le frein n'a pas été mis. Il décide de la pousser le plus loin qu'il peut. Après une demi-heure, il est arrivé au bord du fleuve, en pleine campagne. Il la pousse dans le fleuve. Elle flotte sur l'eau. Il reste à la regarder en espérant qu'elle disparaisse au fond. Petit à petit, c'est ce qu'elle fait. Ouf ! Il s'en retourne épuisé. Quelle nuit ! Arrivé chez lui, il va se coucher. Le lendemain matin, en se réveillant à 9h, il prend son petit déjeuner. Et prend sa voiture pour aller au centre de Rome. Il roule. Au bout d'un moment, il voit que les roues se déséquilibré. Il aimerait freiner, il ne peut pas. Il panique. Que se passe-t-il? Il ne maîtrise plus. Et les roues? La voiture perd de plus en plus de l'équilibre. La voiture a perdu ses roues. Elle s'est renversée sur le côté. Elle a pris feu. Le médecin était assommé, mort sur le cou et brûlé. Le lendemain, dans le bureau de Danfort, il est assis avec Riquin, il lui dit
« L'affaire est close. Nous sommes, on s'abordait la voiture au docteur qui est mort. Ils n'ont pas été obligés de nous occuper du secrétaire parce que le docteur s'en est occupé à notre place. Un de nos agents a surveillé la maison lorsque la chose s'est faite. Du beau travail et propre.
Ricain lui dit, il va très bien. Il n'a plus besoin de personne. La bactérie fait son travail. Le cerveau semble bien marcher. Quoique, de temps en temps, il mélange les deux personnalités et les souvenirs. Mais c'est très rapide et cela peut sembler être des rêves. L'enfant lui dit, bien, tout est pour le mieux. La police a fait son enquête et a trouvé que la voiture avait été sabotée. Elle pense que c'est la mafia. Elle voulait certainement demander un service au médecin du pape qui a refusé. Dans la maison, on a trouvé la baignoire avec de l'acide sulfurique.
Étrange.
Mais tout a eu le temps de disparaître. La police se demande à quoi servait cette baignoire remplie d'acide. Le secrétaire a disparu. La police pense qu'il a disparu parce qu'il y avait quelque chose à cacher. On continue à faire des recherches. Le pape va bien et suit les goûts de son cerveau qui lui disent d'aider le groupe Jeune Tout. Bien entendu, il ne lui dit pas comme ça, mais c'est que tout comme. Sa santé s'est rétablie, il est en pleine forme. Malheureusement pour lui, il pense souvent à Galien, et cela le surprend et l'irrite. C'est la première fois de sa vie qu'il pense de façon intime à une personne. Jusqu'à présent, les gens pour lui n'étaient que des personnes avec qui il avait des rapports d'esprit à esprit. Le corps n'avait rien à y voir. Là, ce n'est pas la même chose. Il se dit furieux. Et dire que j'ai attendu plus de 50 ans pour qu'il m'arrive cette chose. Et en plus, il faut que je sois pape. C'est fou. À moins que ce soit le retour d'âge. Le démon de midi. Mais non, c'est impossible. Puisque j'ai jamais eu de démon de ce genre. Alors quoi? Je deviens fou? À moins que ce soit mon opération qui m'ait fait ces changements. Malgré tout, il ne peut s'empêcher de voir en songe le beau visage de Galien, son corps, sa gentillesse. Il le désire de toute son âme. Plusieurs fois, il est obligé de prendre une douche glacée pour arrêter sa fougue.
J'aime comme un adolescent. J'aime comme un adolescent.
Un jour, il se dit, c'est le diable qui me tente.
Il me donne cette épreuve pour voir si je ne peux pas tomber et aller de son côté. Mais non, je ne le ferai pas. Je ne faiblirai pas. Je remporterai l'épreuve. Je n'ai qu'à penser que Galien est l'objet du mal. Et comme ce... et qu'il est avec le diable. Pour me faire fauter. Comme cela, je l'aimerai moins. Malheureusement, il a beau se le dire, il ne peut y croire. Ce beau visage, ce gentil garçon, soit l'œuvre du diable pour qu'il faute. Non, ce n'est pas possible. Mais se dit aussi que le diable a été le plus bel ange du ciel. Sa beauté a dépassé toutes les beautés. Sa beauté l'a rendu orgueilleux. Et c'est ça qui l'a fait s'opposer à Dieu. Mais non. Galien est un humain. Sa beauté ne peut pas le rendre si orgueilleux et vouloir s'opposer à Dieu et à vouloir me faire fauter. Pas orgueil, méchanceté. Non, c'est impossible. Pour se guérir, il prie beaucoup et lit les évangiles. Malheureusement, cela ne fait pas grand-chose, car à force de prier très souvent, la prière devient mécanique et l'on fait plus attention à ce que l'on dit. Les mots n'ont plus ni signification. Pour la lecture, c'est la même chose. Plus on lit, plus ce que l'on lit, on fait attention. Parce que ce sont des choses que l'on connaît déjà par cœur. Or, tout ça ne l'empêche pas de penser à Galien, et même d'y penser pendant qu'il fait ses prières. Galien, de son côté, ce n'est pas au pape qu'il pense, car le pape lui fait penser à Guillaume. Il ne sait pas pourquoi. Personne ne le sait d'ailleurs. Peut-être que le cerveau de Guillaume, par télépathie, donne des signaux à son ancien amour, comme il en avait l'habitude. Que la chose s'est inscrite d'une façon indélubible dans la mémoire du cerveau. Galien égale amour, égale signaux amoureux. C'est ce que fait automatiquement le cerveau de Guillaume en Donetti. Et le cerveau de Galien reçoit les messages au cerveau du cerveau de Guillaume. Comprend que ça, ce que ça veut dire amour. Et sait que ce signal est le signal de son, du cerveau de Guillaume. Parce que chaque cerveau a un signal spécial qui fait qu'on peut le reconnaître. Malheureusement, le physique de Guillaume n'est pas le même. C'est un vieil homme, gentil, élégant, mais un autre homme. Et le cerveau de Galien ne comprend plus. Le signal du cerveau de Monseigneur Donetti lui apporte l'amour de Guillaume au lieu du sien. Lorsqu'il voit Donetti, il a envie de Guillaume, parce qu'il reçoit le message de Guillaume. Cela paraît étrange, et Galien se demande pourquoi, lorsqu'il pense ou voit Donetti, il a envie de Guillaume. Il se dit qu'il doit y avoir un lien entre les deux, peut-être un lien familial.
lorsqu'il prend le thé avec Madame de Fleury, Galien lui demande « Est-ce que votre famille a eu des liens avec le nouveau pape Donetti, des liens familiaux ?» Elle lui répond « Non, absolument pas. Nous n'avons aucun lien de famille avec des Italiens, ni de mon côté, ni de celui de mon mari. » Galien lui demande encore « Et Guillaume l'a-t-il connu ?» « Je ne pense pas. Guillaume n'était pas très catho, malgré que je lui ai mis dans une école privée. Je voulais qu'il soit prêtre. Une idée idiote. » Eh bien, lui n'a jamais été un fervent chrétien. Même les prêtres de son école étaient surpris et me disaient toujours « Lui, c'est spécial. » On lui a fait faire sa communion privée en me disant que c'était bien pour faire plaisir. Mais on ne lui a pas fait faire sa communion solennelle. Il était trop en retard et ignorant. Dans la lune, quoi. Galien lui dit « Ça se comprend, avec tous les malheurs qu'il a eus, l'ambiance n'était pas très chrétienne. Alors Donetti vous dit rien ?»« Non, rien du tout. Pourquoi me posez-vous cette question ?» Galien lui dit « Parce que chaque fois que je vois le pape, je pense à votre fils. Pourtant, il n'y a aucune ressemblance entre eux, mais je pense à chaque fois à lui. Je suis troublé et je n'arrive pas à savoir pourquoi. » Elle lui dit « Peut-être une odeur, une couleur, un lieu, des mots. Beaucoup de choses peuvent vous rappeler quelqu'un. » « Oui, vous avez peut-être raison. Il faudra que je fasse plus attention. » Les jours passent. Galien reçoit une lettre. C'est du conservatoire du musée d'Égypte qui veut l'entretenir d'un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, les momies. Il aimerait que l'on prenne de l'ADN d'une momie pour voir si on ne peut pas la faire revivre. Galien se dit, encore un fou, mais par politesse, il veut répondre à ce conservateur. Allô ? J'aimerais, c'est que vous puissiez dire à M. Danfort de venir me voir. Merci. Entrez. C'est Danfort. Venez vous asseoir. Galien lui dit, j'ai reçu une lettre d'un éliminé. Il veut faire revivre les momies. Malheureusement, c'est un conservateur du musée du Caire. On est obligé, c'est de lui répondre. Pouvez-vous lui expliquer que c'est impossible ? Tenez, voilà la lettre. Danfort la lit. Elle lui dit : Je vais lui répondre que c'est impossible. Très bien.
Vous en occupez alors.
Oui, monsieur.
Bon, c'est tout. Vous pouvez disposer.
Bien, monsieur.